Le Zoom Info sur Europe 1, affaire de gros sous ce matin. Le gouvernement présente dans une heure, une grosse heure, le projet de loi de finances 2022. C'est le dernier du quinquennat. Depuis plusieurs semaines, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, défend le sérieux budgétaire de l'exécutif. Mais les inquiets du déficit et de la dette en seront visiblement pour leurs frais. Les dépenses vont continuer à grimper. On en est déjà à 11 milliards de plus que l'an dernier. Et encore, on n'a pas tout vu. On en parle ce matin avec nos invités. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers.
Bonjour Dimitri.
Directeur adjoint de la rédaction du Figaro et Mathieu Plane. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de département analyse et prévision à l'OFCE. Mathieu, la technique, je commence avec vous. Il y a évidemment une question politique soulevée par l'opposition. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire campagne avec le chéquier de l'État? On demandera à Vincent ce qu'il en pense. Mais d'abord, ce budget dément-il selon vous la fin annoncée du quoi qu'il en coûte, vu l'inflation des promesses présidentielles? Il y a eu le plan Marseille, des augmentations ciblées sur certaines catégories, etc., etc. Xavier Bertrand dit ce matin dans Les Échos, c'est 5 milliards en 15 jours là, qui viennent d'être décaissés.
Oui, alors, non, c'est quand même la fin du quoi qu'il en coûte, parce qu'on n'est plus dans les mesures d'urgence. On voit que c'est quand même la fin du chômage partiel, du fonds de solidarité.
Qui s'éteint à la fin du mois.
Qui s'éteignent. Donc voilà, les mesures d'urgence s'éteignent. Par contre, il y a un relais très fort, déjà par le plan de relance, mais ça, c'était acté dès l'année dernière. Mais par contre, ça ajoute un autre volet qui est des dépenses plus structurelles, plus durables.
Pérennes. Choses qui reviendront tous les ans.
C'est la vraie question, y compris dans le revenu d'engagement, dont on ne connaît pas exactement les montants. Ce n'est pas juste une fois, c'est censé être durable. C'est un nombre de mesures qui sont arrivées sur la table qui n'étaient pas des mesures ni de relance, ni d'urgence.
Oui.
Et donc c'est là la question, c'est justement sur ces arbitrages budgétaires que peut se poser la question des financements à venir. Tant qu'on est dans l'urgence, la relance, on peut dire que c'est temporaire et faire de la dette finalement, c'est assez normal. C'est-à-dire que c'est le choix de tous les pays dans ce cas-là parce que c'est transitoire face à une crise. Là, on est sur des mesures plus structurelles et donc pose la question du financement à venir. Et effectivement, il n'y a pas le financement en face pour le moment.
Il n'y a pas le financement. Le choix des mots est intéressant. D'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher l'a dit il y a quelques minutes au micro de Sonia Mabrouk. Non, on ne dépense pas. On investit.
Oui, c'est ça. Moi, il me semble quand même qu'il y a eu un...
C'est pas facile de faire l'arbitrage entre les deux.
On a vraiment changé d'air et d'époque avec le Covid, qui est un événement à beaucoup d'aspects matriciels. C'est-à-dire que dans notre rapport à la société, dans notre rapport aux choses, il nous a transformés. Il a transformé notre psychologie. On le voit sur le plan sanitaire et sur le plan administratif. Il y a des gestes administratifs qui pensaient impensables, confinement, couvre-feu, QR code, et qui s'installent dans la société de façon régulière. Et il y a le geste de la dépense comme réflexe politique et économique, qui même si, comme vous l'avez très bien dit, un certain nombre d'aspects du quoi qu'il en coûte cesseront à la fin du mois, s'installent dans les esprits et dans les possibilités. L'économie, c'est aussi de la psychologie. Et il y a aussi un verrou psychologique qui a sauté chez les politiques et dans l'opinion, qui fait qu'il va devenir très difficile de restaurer un projet politique plus rigoureux, plus orthodoxe, comme on l'avait vu durant la campagne de 2017, puisqu'on a vu des possibilités inimaginables il y a encore 3 ans.
Alors c'est vrai aussi, Mathieu Plane, on avait Laurence Boone au téléphone, la chef économiste de l'OCDE, elle disait, mais regardez en même temps la France, 6,3% de croissance attendue cette année, c'est plus que la moyenne européenne, c'est plus que la moyenne mondiale. En termes d'emploi, on est au-dessus du dernier trimestre 2019, quand vous avez des pays comme les États-Unis qui ont une belle croissance, mais ils ont encore 30% de chômeurs. Enfin, 30% d'emplois en moins qu'avant crise, Mathieu Plane. Donc malgré tout, cet argent dépensé ne l'a pas été inutilement.
Ah non, mais c'est clairement un résultat d'efficacité remarquable du quoi qu'il en coûte. Quand on voit le choc économique qu'on a subi en 2020, qui est quand même le plus grave d'après-guerre, en termes de perte d'activité, de risques qu'on avait sur les faillites et sur le marché du travail, on voit qu'un an et demi après, finalement, la situation est plutôt positive. C'est-à-dire qu'on a un niveau de chômage qui est relativement bas, on le voit, très peu de faillites, et un pouvoir d'achat qui ne s'est pas dégradé en réalité en moyenne. Et une épargne qui s'est accumulée du côté des ménages. Donc c'est vrai que le quoi qu'il en coûte a été efficace, il a préservé l'essentiel. La question, c'est vraiment cette sortie du quoi qu'il en coûte, la reprise et la relance. Et on voit que ce quoi qu'il en coûte, il n'est pas français, il est mondial. Et pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, le coût du financement aussi de cette relance est très, très faible. Et donc, c'est vrai qu'il y a des fenêtres d'opportunité pour les gouvernements en place pour accélérer la croissance, les transformations des économies. Et la dette n'est plus une priorité pour la plupart des pays. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas un jour. Mais en tout cas, c'est clairement pas la priorité. La priorité est donnée à la croissance et à la transformation des économies.
Oui, mais il y a quand même des choses qui se sont effacées. Parce que vous avez raison sur l'état de l'économie, mais il reste quand même une dépense publique mirobolante et une dette abyssale, mais qui semble être évacuée du champ politique. Et je vais prendre un exemple très bête qui est la réforme ou la réforme des retraites. Aujourd'hui, il paraît très compliqué d'imposer aux esprits la nécessité d'une réforme des retraites et les économies qu'elle entraînerait, puisque on nous explique qu'il y a une possibilité de dépenser et que finalement, ces dépenses qui, il y a 3 ou 4 ans, auraient eu des conséquences désastreuses, cette fois-ci seraient plus indolores. Et il me semble que pour la campagne présidentielle qui s'annonce, ça nous prépare une suite de promesses qui ont déjà commencé avec Anne Hidalgo qui veut doubler le salaire des profs.
Non mais ça, c'est de l'investissement, Vincent.
Voilà, c'est de l'investissement, mais quand
horizon de 15-20 ans,
le président ou la présidente sera élu, là, on va revenir, ce sera l'heure des conséquences et des réalités économiques, et là, on va se trouver dans une situation qui sera beaucoup moins idyllique et un horizon beaucoup moins attirant que celui qu'on nous présente aujourd'hui.
Budgétairement, on regarde 1,7 milliard en plus dans le budget qui va être présenté aujourd'hui pour l'éducation, 1,7 milliard également pour la défense, comme si, en réalité, on avait pris conscience d'une insuffisance budgétaire, peut-être aussi parce que les temps sont propices à cela. Quand on regarde Nicolas Sarkozy en 2011, il n'a pas le choix, il doit faire de la rigueur parce qu'on est à ce moment-là à la merci des marchés, il faut se désendetter, on est en pleine crise grecque. Emmanuel Macron a cette chance incroyable en 2021 qu'il n'y a aucune menace de marché sur la dette française, Mathieu Plane.
Oui, tout à fait. Donc le contexte économique est plutôt favorable, comme vous l'avez dit, on est dans une phase de croissance. Les taux restent très bas, la politique monétaire de la Banque centrale reste très accommodante. Les règles budgétaires ont été gelées, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette obligation de réduire les déficits. Donc, et en plus, on est dans la sortie du quoi qu'il en coûte, avec quand même une incertitude sur la reprise économique. Donc, plus une campagne pré-présidentielle. Donc, c'est vrai que tout se juxtapose pour qu'il n'y ait pas d'effort budgétaire dans cette séquence-là.
Et une incertitude sanitaire en plus.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. C'est-à-dire que la question va se poser pour le ou la prochaine personne qui sera élue et qui sera président ou présidente de la République, parce que la question, elle va être sur la trajectoire budgétaire après 2022 et la question des règles budgétaires européennes. Comment on va ça se traduire vis-à-vis de nos partenaires européens? Comment la politique monétaire de la BCE va sortir aussi du financement très bon marché, etc., des politiques très accommodantes? Donc, il y a une vraie question, mais elle va se poser après, et c'est pour ça qu'il peut y avoir un décalage entre les campagnes présidentielles et ce qui va être annoncé et la réalité.
Et puis, il y a quand même la question de l'image et de la perception. On dit qu'en politique, les perceptions sont des faits. Et Emmanuel Macron incarnait physiquement la réforme, au même titre qu'on disait qu'Alain Juppé incarnait physiquement l'impôt. Enfin, la phrase était de François Hollande. Ou non, Juppé le disait de Hollande. Enfin, je ne sais plus, l'un des deux. Mais en tout cas, Emmanuel Macron tente à incarner maintenant la dépense. Et donc, dans le projet et l'image qu'il avait donnée avant son élection pour son premier mandat, là, il y a un bouleversement qui, même s'il n'y a pas une urgence de réforme dans les 6 mois, parce qu'il y a aussi une incertitude sanitaire, peut altérer un tout petit peu son potentiel électoral.
Oui. Xavier Bertrand écrit ce matin dans Les Échos, Emmanuel Macron, c'est le président de la dette, effectivement. Mais il y a une question qu'on va se poser dans un instant avec nos invités, justement, c'est est-ce que la perception de la dette n'a pas évolué? Est-ce que tout simplement le rapport à la dette n'a pas définitivement changé? Vous avez des discours aujourd'hui qui vous disent que tout ça n'a finalement pas très grave, que de toute façon les banques centrales sont dans la seringue, les États sont tellement endettés qu'on ne reviendra jamais à des aires de taux élevés. Ce qui pose la question du financement de l'État. Après tout, pourquoi on paye des impôts si on peut tout emprunter sur les marchés? Ça, c'est des théories qu'on entend aujourd'hui. On posera la question dans un instant à nos invités Vincent Trémollet de Villers et Mathieu Plane. À tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Alban Le Prince pour le journal permanent.
Jour J pour le budget 2022 présenté ce matin au Conseil des ministres avec la fin du quoi qu'il en coûte, mais un carnet de chèques qui reste grand ouvert. Emmanuel Macron accusé de vider les caisses de l'État par l'opposition. On ne va pas rester les bras croisés, l'économie se serait effondrée, a répondu ce matin sur Europe 1 Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie. Il y a une accalmie propice à la levée des mesures telles que le pass sanitaire, a estimé dans la matinée l'épidémiologiste Antoine Flahaut à la télévision. Son adaptation locale doit être évoquée à l'occasion d'un nouveau conseil de défense sanitaire dans une dizaine de minutes. Le QR code d'Emmanuel Macron qui circulait sur les réseaux sociaux depuis lundi est authentique, a confirmé l'Élysée à Europe 1 hier. Des professionnels de santé seraient à l'origine de cette fuite.
Europe Matin.
En fait, c'était la fin du quoi qu'il en coûte sanitaire, mais on est rentré dans le quoi qu'il en coûte électoral. C'est-à-dire qu'on fait des promesses électorales à tout va, qu'on ne finance pas et qui font exploser la dépense publique en France comme jamais on l'a fait exploser.
Voilà, venez d'entendre Damien Abad, le député de l'Ain, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Alors, il dresse une petite liste. Le plan pour Marseille, le coup de pouce aux policiers, le chèque énergie, la prime de 100 euros, plus hausse de salaire pour les sages-femmes, plan pour les indépendants, l'assurance récolte pour les agriculteurs, contraception gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans, etc. etc. Alors oui, c'est une liste assez longue de dépenses, mais le gouvernement rétorque quand même. D'abord, ce qu'on a mis sur la table a permis un bien meilleur redémarrage qu'en 2010-2011. C'est vrai, il y a eu 10 ans d'austérité derrière, pratiquement. Et puis, tout cela a des contreparties. Pour chaque enveloppe, on exige aujourd'hui des contreparties. Je vous pose la question, Vincent Trémollet de Villers, parce que c'est un point extrêmement politique. Emmanuel Macron, vous semble-t-il faire campagne avec le chéquier de la France? Est-ce qu'il crame la caisse, comme dit Valérie Pécresse?
Mais il est évident que les différentes interventions et rencontres d'Emmanuel Macron ont une dimension catégorielle et budgétaire. Alors, on vous dira autour d'Emmanuel Macron qu'il ne fait pas campagne, que simplement il enjambe la présidentielle, qu'en général, il invoque la date de 2030 avant de faire le chèque. Et donc, ça veut dire que les réformes qui devraient arriver ou les contreparties seront exigées une fois qu'il sera réélu. Bon, après, moi, il me semble que ça altère, comme je l'ai dit tout à l'heure, son image de réformateur et de sérieux budgétaire. Et comme il veut être le candidat du cercle de la raison, à mon avis, ça n'est pas extraordinaire. Mais il faut bien considérer
que... Il y a un aléa moral, selon vous, dans cette manière de...
Moral, je ne sais pas, dans l'image et dans la perception pour son électorat. Mais je ne crois pas. Enfin, on n'a pas vu d'élection dans lesquelles la dette était le sujet central et le point de bascule d'une élection présidentielle. On peut le déplorer, mais quand François Fillon en fait son grand sujet,
2017,
il ne décolle pas. Il faut qu'il fasse un livre sur l'islam et qu'ensuite il prenne un tour un peu conservateur pour qu'il gagne la primaire. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé.
Il n'y a pas de point à gagner en parlant de la dette. Par contre, en parlant du pouvoir d'achat, oui.
Mais il me semble que ça ne peut pas, et c'est pour ça que Damien Abad attaque, il fait son rôle d'opposant, mais ça ne devrait pas devenir le point central de l'élection présidentielle. En tout cas, jusqu'ici, ça ne l'a jamais été, ça a toujours été remplacé par des sujets qui sont plus proches des problèmes régaliens ou des problèmes de culture ou de civilisation.
Je me tourne vers l'économiste Mathieu Plane. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'effectivement, là, précisément, à l'heure où l'on parle, il n'y a pas de sujet véritablement de la dette, mais vous avez rappelé que c'est vrai, en mars, il va y avoir ces rendez-vous européens où il sera question du retour aux critères de Maastricht, qui ne sont sûrement pas les mêmes. On parlera sans doute plus de 60% de dette, 3% de déficit, ce sera sans doute plus souple et peut-être même à la carte. Mais réellement, est-ce qu'aujourd'hui les banques centrales ne sont pas totalement dans la seringue? Est-ce qu'il n'y a pas ce pari politique de se dire les taux remonteront jamais ou pas avant 10, 20, 30 ans et finalement 200% de dette publique comme au Japon où ils sont à 230%, finalement c'est tenable. Ça fait 20 ans que les Japonais sont dans cette situation et l'État n'a jamais fait banqueroute.
Oui, alors il y a effectivement ce jeu un peu complexe entre les États, et notamment dans la zone euro, entre les États et la Banque centrale. On voit qu'il y a un financement très très bon marché du soutien à l'économie. On voit que les États s'endettent à des taux historiquement bas alors que les dettes sont historiquement élevées. C'est quand même le paradoxe. Donc c'est vrai que faire campagne en disant la dette est trop élevée, c'est une catastrophe, c'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les marchés. Les taux sont proche de zéro, voire négatif dans certains cas.
On est arrivé au bout du système, d'une certaine manière.
La vraie question, c'est que, oui, alors, et puis d'abord, il y a aussi les États-Unis. Il faut voir que les États-Unis, le plan Biden, c'est un plan XXL.
3500 milliards.
Voilà, on voit qu'il met carrément son économie en surchauffe. On voit qu'il y a même des tensions inflationnistes. On est dans un nouveau monde macroéconomique. Et donc, il faut bien le comprendre de ce point de vue-là. Et puis, il y a une séquence politique. Il y a une séquence politique qui est de ne pas refaire les erreurs que vous avez dit de 2011, 2012, 2013. Qui avait cassé la reprise. Donc la vraie question, c'est comment sortir du quoi qu'il en coûte et aller progressivement vers une forme de sérieux budgétaire, mais qui ne casse pas la croissance. Et quelle va être la trajectoire future des déficits et des dettes? Parce qu'on ne peut pas non plus vivre...
C'est un peu c'est du vrai en même temps, ça. Du sérieux budgétaire, mais qui ne casse pas la croissance.
Oui, mais parce qu'il faut être sûr l'économie soit stabilisée, que la reprise soit vraiment là, que le chômage ait vraiment diminué, pour accepter des efforts budgétaires. C'est-à-dire que si vous mettez... la charrue avant les bœufs, vous allez avoir quelques difficultés. Donc c'est vrai que le gouvernement est dans cette logique-là, surtout que tous les gouvernements du monde sont dans la même logique.
Bien sûr.
Sauf qu'il y a un vrai mélange des genres, c'est-à-dire qu'on n'est plus que dans le soutien ou dans l'investissement ou dans la relance de l'économie. Il y a un certain nombre de mesures qui sont des mesures dites structurelles. Donc c'est vrai que ça va être très compliqué de faire des dépenses durables et de l'autre côté, de dire qu'il va falloir faire des efforts sur les retraites, sur la santé, sur un certain nombre de volets sociaux. Donc c'est vrai que là, la difficulté politique, c'est de dire, en fait, ça, c'était temporaire. c'était juste de l'urgence, c'était de la relance. Mmh. Et maintenant, il va falloir revenir un peu au monde d'avant, avec une certaine rigueur, mais ça, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir faire des efforts budgétaires ou peut-être augmenter certains prélèvements. Bah,
alors justement, parce que quand on ramène la chose à la question individuelle, les gens qui se disent, vous savez, en France, il y a ce réflexe, comme disait François Hollande, l'État paiera. Mmh. Mais Vincent Trémollet de Villers, est-ce que les Français doivent s'attendre, redouter sans doute, mais s'attendre à des hausses d'impôts? C'est 50 milliards en moins de rentrées dans les caisses de l'État du fait de la disparition de la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu pour les foyers modestes. Est-ce que la situation va nous conduire à des hausses d'impôts?
On nous promet qu'il n'y en aura pas,
oui,
et qu'on fera des économies plutôt qu'augmenter les impôts. Mais bon, c'est des promesses qu'on nous a faites souvent et qui peuvent laisser un peu sceptiques et qui peuvent inquiéter un certain nombre de contribuables.
En général, taxer les successions, les donations, voilà, ce genre de choses.
Et puis en général, ce sont les moyens riches à la fin qui sont les victimes de cette histoire. Ils représentent 10% et c'est eux qu'on ponctionne. Moi, je crois que vous avez très bien exprimé la contradiction interne dans laquelle vont se retrouver les gouvernants, c'est-à-dire la restauration d'un État omnipotent à qui on peut tout demander. C'est-à-dire, il a un chéquier infini et il a montré qu'il pouvait tout donner. Donc à la limite, c'est le triomphe posthume de Benoît Hamon. On a vu ça pendant le confinement. Le revenu universel, on l'a vécu. On est chez nous, on ne travaille pas, on gagne de l'argent. Bon. Et ça, c'était une possibilité qui était impensable. Et donc à partir de là, restaurer l'idée d'une rigueur, restaurer l'idée d'un effort, en disant on en a besoin parce que sinon l'économie sera déséquilibrée, alors qu'on nous dit parallèlement que l'on peut vivre avec une dette qui galope et qui arriverait à celle du Japon, ça me paraît politiquement infaisable.
Oui, mais il y a ceux qui
et
vous
donc,
disent...
Et donc, il va falloir... Ce en même temps est tenable le temps d'une campagne. Après, dans la pratique et dans l'exécution, ça va être très, très difficile.
Bah oui, mais il y a ceux qui vous disent il faut freiner la dette parce qu'un État surendetté est fragile, il est faible. Il y a ceux qui vous disent oui, mais l'avenir va coûter cher, la transition écologique, etc. J'ai une dernière question, Mathieu Plane, très rapidement. Question abyssale, si vous pouvez répondre rapidement. Je sais que c'est compliqué, mais c'est vrai. Ça,
sujet de thèse.
Pourquoi on paye des impôts dans ce mal ? Si on peut tout financer en levant sur les marchés, que de toute façon la dette, la banque centrale rachètera tout en dernier ressort, pourquoi payer des impôts si on peut tout emprunter ?
Oui, alors c'est là la vraie question. Les impôts sont là pour financer un certain nombre de dépenses, un certain nombre de services publics, de protection sociale. Et c'est vrai que les déficits sont acceptables, et la dette est acceptable, mais elle peut être que transitoire. Après, avec des niveaux, savoir est-ce que ce déficit va être utilisé pour l'investissement. Le risque, effectivement, dans le quoi qu'il en coûte, qui était pourtant utile, c'est de dire, effectivement, pourquoi aller payer des impôts même qu'on peut avoir des facilités de refinancement, une dette qui peut continuer à augmenter. La soutenabilité de la dette, c'est aussi très compliqué. Donc, c'est aussi des projections à long terme. Et c'est de savoir quelle va être la capacité de l'État à rembourser cette dette sur le long terme, mais ça veut dire aussi accepter des prélèvements en face.
Vous n'entrez pas dans mon jeu, je vois bien, j'ai bien compris.
Non, mais voilà, donc c'est extrêmement compliqué et c'est un sujet macroéconomique assez complexe, mais bien sûr, les impôts sont là pour financer un modèle économique et un modèle social. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des déficits, mais les déficits sont quand même assez transitoires, ils ne peuvent pas être notamment totalement durables.
Merci Mathieu Plane de l'OFCE, Vincent Trémollet de Villers du Figaro. Merci à tous les deux d'être venus dans le Zoom Info ce matin sur Europe 1.